Bienvenue à ce cours. J'espère que vous ne regretterez pas de passer un certain nombre d'heures à vous mettre à l'écoute et au service de l'Évangile selon Jean. Je commence par m'expliquer sur ce titre. Récemment, quelqu'un me demandait « Mais pourquoi parles-tu de l'Évangile selon Jean et pas tout simplement de l'Évangile de Jean ?» Alors, je lui dis que ce n'était pas un belgicisme, que c'était le titre même de l'Évangile, Kata Johannen. Et comme vous le savez, en général, un titre est donné une fois l'œuvre accomplie. Donc, il y a certainement à glaner quelques interprétations, quelques informations dans le choix de ce titre. Une préposition en grec qui régit l'accusatif, suivi de son complément, un nom propre et sans aucune détermination de verbe ou de substantif, pas même évangile, comme on pourrait s'y attendre. Et pour le dire tout de suite, le terme même évangile n'apparaît pas dans ces 21 chapitres. Le substantif est absent de tout le texte que nous allons voir, mais ce n'est pas parce que le terme est absent que le contenu n'est pas présent. Et ceci sera en quelque sorte à recreuser pour d'autres éléments, comme par exemple l'alliance. Dans une recension récente que l'on a pu faire de mon travail sur les lettres de Jean, on me reprochait de faire du modèle de l'alliance, au fond, la référence principale de mon travail. Or, ni dans la première épître, ni dans les autres de saint Jean, ni dans l'Évangile non plus, le terme « alliance » n'apparaît, vraisemblablement pour ne pas prêter confusion avec la communauté de la Nouvelle Alliance, comme se définit la communauté de Qumran à une époque semblable. Mais donc, ce n'est pas parce qu'un terme est absent que son contenu n'est pas prégnant. Et pour le dire tout de suite, qu'est-ce que l'Évangile, même si le terme n'est pas employé? Avec une minuscule, l'Évangile désigne plutôt les recueils des quatre évangiles que nous connaissons, les trois synoptiques et Jean. Et l'Évangile, c'est une histoire, beaucoup disent à l'heure actuelle, c'est le récit sur la vie et la mort de Jésus, tenant compte du fait que Jésus, ce personnage historique, déborde tant sa naissance, il n'est pas le résultat de l'union conjugale de conjoints humains, mais Jésus déborde aussi sa mort. C'est le sens du tombeau vide, que je préfère appeler le mémorial ouvert. Son cadavre n'a pas été retrouvé. Il n'est pas englouti par et dans la mort. C'est plutôt la mort qui est engloutie dans sa vie de ressuscité. Quant à l'Évangile avec une majuscule, le terme définit plutôt, en son sens même, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort pour nos péchés selon les Écritures, mis au tombeau et ressuscité le troisième jour selon les Écritures, d'après 1 Corinthiens 15, 3, 4. Donc, je ne voulais pas vous laisser dans l'indétermination sur le terme évangile, ces différents sens compatibles, tout en relevant que le terme n'arrive ni dans le titre, ni dans le texte intitulé « Selon Jean ». Alors la question rebondit, qu'est-ce qu'est « Selon Jean » ? Je dis tout de go, c'est peut-être une pétition de principe, toute la suite du texte. Le titre donne un indicatif sur tout ce que les chapitres que nous allons travailler, au moins par large ponction, veulent nous dire. Et en tout cas, comme nous allons le voir dès ce soir avec ce texte du prologue qui est encore travaillé et retravaillé, inépuisable, dès le prologue, il s'agit en somme d'une vision de la réalité. Du monde, de l'histoire, du Christ, mais surtout avec un souci de bien montrer que tout relève du Christ, du commencement à la fin. Et que cette histoire du Christ est aussi celle de ceux qui croient en lui, comme nous allons le voir au cœur du prologue. Il est principe et fin de tout, mais on pourrait dire pour nous, en notre faveur. Je dis en peu de mots beaucoup de ce que je contribuerai au cours de nos rencontres à déployer dans toutes les implications. Principe et fin de tout, il nous concerne nous-mêmes dans notre propre principe et dans notre propre fin. Et un petit peu, peut-être pour ceux et celles qui étaient là, mais même pour ceux et celles qui ne l'étaient pas, cela fait sens. En écho à ce que disait Jean-Noël Aletti l'autre jour dans sa conférence inaugurale, je suis de ceux qui pensent que si la christologie est effectivement centrale dans le quatrième évangile, peut-être plus que dans les synoptiques encore, cette christologie, ce discours sur le Christ, ce récit, cette histoire de Jésus-Christ est indissociable de l'ecclésiologie, de tout ce que le Christ interpelle comme croyant dans le monde et dans l'histoire de tous les temps. Et s'il fallait résumer d'entrée de jeu d'un mot du prologue tout ce qu'est kata Ioannen selon Jean, il ne serait sans doute pas trop faux de suggérer la parole, le logos. Alors voilà, le grand mot est lâché. Conversation de café tout à l'heure, Michel Fédoux. Je suis heureux que le cours sur la Trinité et l'évangile de Jean se donnent ensemble. Alors, commencement de l'évangile, commencement, non. Au commencement était la parole, ou alors au commencement était le logos. Est-ce que tu vas commencer par là ? J'ai dit oui, nous commençons par le commencement. Mais voilà bien ce qui nous met aussitôt en appétit. Le quatrième évangile nous entretient du logos, mais alors, voilà. Je vous propose une traduction qui n'est pas une bonne traduction. C'est pas du bon français. Le grec de Jean n'est pas non plus du bon grec, ce n'est pas le grec classique, c'est le grec de la Koiné, donc du bassin méditerranéen de l'époque, hein, deuxième siècle après le Christ. C'est un grec matiné d'hébreu, d'araméen, mais de cet évangile dont le vocabulaire est le plus pauvre par rapport à Luc. Par rapport à Paul, dans le Nouveau Testament, Jean apparaît plutôt comme une sorte de petit nain, mais il tire de son vocabulaire limité et restreint toutes les nuances que cette palette lui permet. Le quatrième évangile nous entretient de la parole selon Jean, mais qu'est-ce à dire ? Je suis de ceux qui pensent, et il y en a un certain nombre à l'heure actuelle, je prendrai toujours un peu cette précaution rhétorique parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles les exégètes soient unanimement d'accord. Je dis toujours à ce sujet, si c'était le cas, il n'y aurait plus ni d'exégète ni d'exégèse, donc jouons le jeu. Mais enfin, pour un bon nombre, les 5 premiers versets du prologue non seulement constituent une sorte de condensé, de résumé du prologue en tant que tel. On a pris l'habitude d'appeler prologue ces 18 versets dont nous chercherons à identifier aussi un peu le genre littéraire et la construction au fil de notre lecture. Les 5 premiers versets constituent un condensé de ce qui va suivre dans les versets 6 à 18, mais même aussi de tout l'évangile, de tout selon Jean. Donc, affinons notre regard. Je lis les 5 premiers versets d'affilée. Au commencement était le Verbe, j'adopte la traduction la plus usuelle en français et en particulier dans l'usage liturgique de ce terme, donc il faudra nous expliquer à ce sujet dans un instant. Vous remarquez aussi que j'ai mis entre parenthèses « en un commencement » parce que « au commencement » en français laisserait penser qu'il y a un article devant ce substantif « commencement », ce n'est pas le cas. « En arché »,« en ho logos ». Nous nous en expliquerons aussi. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et Dieu, il était le Verbe. Celui-ci était au commencement auprès de Dieu. Et j'ai disposé typographiquement les composantes de ces phrases pour faire apparaître, pour faire sauter aux yeux qu'il y a donc non moins 4 fois la répétition de ce verbe « était », très insistant, dans les 2 premiers versets. Nous nous en expliquerons aussi. « Toutes choses à travers lui devinrent », et donc voilà le surgissement du « devenir », presque aussi insistant que celui sur l'être, et en dehors de lui ne devint pas même une chose, c'est plus fort que simplement rien, c'est oudehen, pas même une chose qui est devenue, et donc je regroupe dans cet unique verset 3 les 3 occurrences qui se succèdent de manière analogique par rapport au verbe « être » dans les versets 1 et 2, le verbe « devenir ». En lui, la vie était, et on revient sur ce même verbe « était » qui apparaissait à 4 reprises au début, et la vie était, 6e fois que le verbe revient, la lumière des hommes, et la lumière en la ténèbre lui, et la ténèbre ne la saisit pas. Et nous devrons nous expliquer aussi sur le sens de ce verbe « ne la saisit pas » que, par exemple, la Taube traduit d'une manière qui est admise par beaucoup de lecteurs à l'heure actuelle. Les ténèbres ne l'ont point comprise. ce qui donne évidemment un sens bien différent. Au commencement, en arche. Avant de nous engager dans des réminiscences possibles, multiples, presque indéfinies, de grands textes de l'Ancien Testament auxquels le prologue fait allusion, et je pense évidemment tout de suite pour en arche à Genèse 1.1. Ce n'est pas admis malgré tout par tout le monde, mais enfin, c'est exactement la même expression qui arrive dans la traduction grecque de la Septante en Genèse 1.1, quand il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Mais enfin, pas trop vite. Nous essaierons continuellement de respecter en quelque sorte deux niveaux de lecture. Une lecture, on pourrait presque dire, au ras du texte, comme apparaissent les mots et les expressions. Et alors, on pourrait dire, en un second temps, nous pourrons enrichir cette première lecture de beaucoup d'autres implications que recèle le texte. Mais donc, la première chose à remarquer, et sur laquelle peut-être on n'insiste pas toujours assez, c'est que si le texte s'ouvre sur la question du commencement, c'est parce que c'est un peu son objet formel. Il envisage tout ce dont nous nous sommes entretenus il y a quelques instants, c'est-à-dire, pour faire bref, l'histoire du Christ dans le monde des croyants, sous l'angle du commencement. Alors que, encore aujourd'hui, l'exégèse du Nouveau Testament en particulier est dominée par la question de la fin, l'eschatologie. Jean est un monument, pourrait-on dire, de protologie, de discours sur le commencement. Donc il envisage les choses par rapport à l'origine. En français, on distingue, ce n'est pas le cas dans beaucoup de langues, entre une origine unique et absolue et un commencement qui peut être multiple. Et vraisemblablement, ici, avons-nous les deux sens du terme, c'est-à-dire un renvoi à ce qui est vraiment au commencement, à l'origine de tout, et en même temps, une évocation de ce qui, à un certain moment du temps, commence. Voilà. Origine absolue et commencement sont articulés de manière assez subtile, précisément parce que il n'y a pas l'article, donc l'auteur ne dit pas à l'origine. Il dit cela aussi, mais une origine qui prend sens à un certain moment, dans des commencements. Potentiellement au pluriel. Il peut y avoir plusieurs commencements, il n'y a qu'une seule origine. Comme je le dis et redis dans mon enseignement, ceci est encore une dette que je dois à quelqu'un comme Paul Beauchamp. Ma dette à l'égard de ce maître en Écriture sainte est insolvable, donc ne me reprochez pas de trop souvent l'évoquer. Mais voilà, c'est lui qui attire l'attention. C'était un théologien de la création. C'est sans doute l'homme qui a le plus marqué le Centre Sèvres avant sa fondation et depuis. Mais donc, c'est lui qui attirait l'attention sur le fait que, par exemple aussi, dès la Genèse, dès Genèse 1.1, quand l'hébreu dit « Bereshit bara Elohim », il ne dit pas seulement « à l'origine », il dit aussi « dans un commencement du temps ». Puisque le texte est aussi écrit en hébreu, dans une culture, dans une histoire déterminée. Voilà déjà une moisson abondante pour le premier substantif, qui est un complément, hein, au, en un, commencement, était. Alors, là, il faut s'expliquer aussi. Le verbe être, eimi, en grec, n'a qu'une seule forme pour tous les temps passés. C'est la forme de l'imparfait, mais qui ne se limite pas seulement au sens de l'imparfait. L'imparfait, en grec comme dans nos langues occidentales, la plupart du temps indo-européennes, utilise l'imparfait pour un temps passé révolu, à un moment du temps, était. Mais le grec a aussi l'oriste, qui a aussi plutôt un sens ponctuel, mais qui peut davantage se prolonger. Le parfait est encore plus net. Le parfait, c'est un temps du passé qui se prolonge jusqu'au moment où je parle, dans le présent. Toutes ces nuances disparaissent pour le passé du verbe être qui s'en tient uniquement à l'imparfait. Ce qui veut dire que cet imparfait n'est pas à entendre purement et simplement dans le sens d'un temps du passé ponctuel révolu. C'est pourquoi, personnellement, je pense qu'il est possible de traduire ce « était » par le « il y a » en français, au présent. Au commencement, « était », cela veut dire « il y a encore toujours ». Alors, le logos. Il y a de quoi trembler quand on aborde la question du logos, parce que vous savez peut-être qu'il y a des bibliothèques qui ont été publiées là-dessus. Alors, procédons méthodiquement. Le logos peut avoir essentiellement deux sens selon que on situe le texte dans son horizon grec ou dans son horizon sémitique. Et c'est tout de suite dire un des grands enjeux du quatrième évangile. Le logos en est en quelque sorte le révélateur, la marque. Le quatrième évangile est certainement dominé par un souci d'ouvrir la révélation juive, la révélation du Dieu d'Israël au monde grec. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit en grec, comme tous les écrits du Nouveau Testament. Et donc, dans le monde grec, le logos, évidemment, a une très grande postérité. Le terme signifie, en particulier, dans le monde de la philosophia, de la philosophie, de l'amour, de la sagesse grecque, je dirais essentiellement deux choses, peut-être trois. Deux choses, le principe, j'ai évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas, qui d'ailleurs est en synchronie ici avec le commencement, hein, le principe, mais aussi la raison de toute chose, qui d'ailleurs sont deux sens liés, hein, est liée à la raison, la pensée. C'est certainement le sens dominant chez les grands penseurs Platon et Aristote. Chez les pré-socratiques, le logos, alors, qui précède Aristote et Platon, donc, hein, avait plutôt le sens de la parole aussi. C'est-à-dire la parole au sens où, justement, elle lie les mots ensemble pour produire un sens dans une phrase ou dans un discours. Donc, principe, raison, pensée, troisième sens possible que j'évoquais, la parole. Et c'est ce sens-là qui, dans le monde sémitique, le monde juif, jusqu'à aujourd'hui, traduisant l'hébreu d'avar, évoque de manière dominante tout ce qui est de l'ordre de la parole. Et là, la moisson est évidemment extrêmement abondante, surtout si nous lisons le texte sur l'arrière-fond de l'Ancien Testament, mais je vais y revenir dans un instant avant de terminer ce que je veux dire sur le logos. Dans un souci d'articuler réflexion grecque et réflexion hébraïque, l'auteur a donc certainement le souci de renvoyer à un terme à la fois extrêmement riche et extrêmement précis. Donc nous ne sommes pas du tout dans une nébuleuse. Il y a une grande rigueur dans l'utilisation du terme « logos » qu'implique même le « logos ». Alors vous pourrez vous étonner du choix que j'ai fait de la traduction par « verbe ». Pour vous le dire tout de suite, le sens que je donne au premier stick du verset, c'est au commencement, il y a la parole. Et comme je le disais, au premier niveau de langage, il y a donc une insistance sur le fait que dans le monde humain où nous nous mouvons, tout commence par la parole. Si bien que nous échappons aussitôt à ce qui a aussi été l'objet d'une question de Christophe Théobald l'autre jour lors de la conférence inaugurale, n'est-ce pas ? La référence au commencement, ne nous renvoie pas à un univers mythique, parce que la question du commencement est immédiatement contrôlée par la parole. Et donc, il ne s'agit pas de nous référer à un passé archéologique, à la limite insaisissable. Il s'agit d'abord et avant tout de nous faire prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre ici et maintenant, que dans un monde humain comme le nôtre, quand des humains, quand des hommes et des femmes se réunissent, au commencement, il y a toujours la parole. Parce que cela qualifie notre condition humaine. Donc on peut réfléchir là-dessus. Nous ne nous connaissons pas, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous. Nous commençons une lecture de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean nous dit « Au commencement, il y a la parole ». Donc parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc c'est le plus simple qui nous est souvent le moins facilement accessible. Hein. Donc, alors le texte maintenant va pouvoir être revêtu d'implications multiples et variées, à condition que nous ne perdions pas de vue ce qu'il veut dire en un sens d'abord et totalement élémentaire. Tout ce qui commence, commence par la parole. Alors, comme je vous le disais il y a un instant, pourquoi est-ce que je choisis le verbe ? Ben, d'une part, parce que, c'est aussi un principe de lecture fondamental, nous lisons le texte en Église. Je ne demande jamais aucune contrainte confessionnelle aux personnes qui suivent mes cours ou mes enseignements. Mais nous étudions de toute façon l'Écriture sainte dans la tradition. Et nous tenons compte du fait qu'un certain nombre de nos prédécesseurs ont lu ce texte avant nous. Et d'où vient le verbe ? Tout simplement de la traduction de logos en grec par verbum en latin dans la traduction de la Vulgate de Saint Jérôme au IVe siècle. Le verbe veut bien dire la parole, mais en français, ce terme a un caractère, on pourrait presque dire, un peu élitiste. La plupart du temps, d'ailleurs, il renvoie plutôt à une catégorie grammaticale. Hein ? Le substantif, le verbe, les compliments. Et c'est précisément ce que je veux essayer d'éviter en attirant l'attention sur l'importance de la parole, avant un texte, un sens un peu spécialisé comme verbe qui vient de verbum, le terme logos a un sens beaucoup plus large, pas du tout spécialisé, en tout cas rien, absolument rien d'ésotérique, d'initiatique. Mais je l'adopte parce que on continuera, je crois, longtemps à utiliser ce terme pour la traduction liturgique, la nouvelle traduction liturgique, d'ailleurs, à ce sujet, ne déroge pas à la règle. Au commencement était le verbe. Mais alors maintenant, voilà, c'est l'appui que se donne l'auteur pour approfondir ce qu'il veut nous dire. En un commencement, au commencement, il y a la parole. Qu'est-ce à dire ? Et la parole était auprès de Dieu. Si je traduis en continuant à observer la même règle du N traduit par « il y a », la parole, il y a. Auprès de Dieu. Intéressant, ça rend quelque chose qui réveille, qui attire l'attention. Et Dieu, il y a la parole. Le Verbe était auprès de Dieu, et Dieu, il était le Verbe. Alors là, vous savez, c'est aussi, nous sommes habitués à ce texte, mais c'est une sorte de coup de gong dans l'univers à la fois sémitique et hellénistique, le verbe, c'est Dieu, distinct de Dieu. Nous assistons sous nos yeux, en lisant le texte, à ce que l'on a pris l'habitude d'appeler, je sens ça dans les lectures actuelles sur l'évangile de Jean et sur les questions trinitaires, le bénitarisme. Hein ? D'abord, avant de passer à la Trinité, le texte nous fait passer, disons, insensiblement, d'une conception monothéiste à une conception bénitaire de Dieu. Le verbe, la parole, c'est Dieu, distinct de Dieu. Et le deuxième verset nous ramène d'une manière tout à fait révélatrice du style de cet auteur au début du verset 1. Celui-ci, c'est le « là ». Le verbe, la parole, était au commencement auprès de Dieu. Donc, je dis tout de suite, n'est-ce pas, nous sommes introduits dans non seulement un monde d'idées, mais dans un style de langage en répétition. Certains parlent d'un langage en spirale, certains parlent de langage en vagues successives, comme le ressac, n'est-ce pas, de l'eau, indéfiniment au bord de la mer. Ce qui nous fait alors revenir un instant aussi sur le début du verset 1, puisque c'est par là que se conclut aussi le verset 2, la question du commencement. Et c'est là donc que nous creusons la référence à la création dans l'Ancien Testament. Ça, c'est indubitable. Hein ? La protologie, le discours sur le commencement, sur l'origine, dans l'Ancien Testament, c'est le discours sur la création. Et c'est par là que s'ouvre d'ailleurs la Genèse, tout le Pentateuque et la Bible tout entière. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous n'avons pas le temps, évidemment, de passer en revue un certain nombre de textes de la même venue, mais si nous avions le temps, et en tout cas il faut souligner déjà du point de vue de l'identification du genre littéraire, qu'un des textes fondamentaux à avoir en mémoire, c'est le texte sur la sagesse au commencement auprès de Dieu en Proverbes 8, 22, 31. Grand texte qui est lu dans la liturgie catholique pour les fêtes de la Vierge, où à bon droit, à condition qu'on sache ce qu'on fait, la sagesse est identifiée à Notre-Dame, à Marie. Hein ? C'est d'abord de la sagesse qu'il s'agit. Et ceci me permet de préciser aussitôt un autre point important. Si, dans l'Ancien Testament, la question de l'origine du ou des commencements est liée à la création est liée à la sagesse, au courant sapientiel. C'est la sagesse qui s'intéresse au commencement. Tout texte marqué par une réflexion sur l'origine, le commencement, est marqué par la sagesse. Et le texte qui le dit peut-être le plus synthétiquement, c'est ce poème sur la sagesse en Proverbes 8, 22, 31. Je modifie un petit peu la traduction de la Bible de Jérusalem parce qu'elle risque de nous faire penser que la sagesse est créée alors que justement c'est ce que l'auteur veut éviter. Le Seigneur m'a acquise prémisse de son œuvre. La Bible de Jérusalem traduit le Seigneur m'a créé. Donc le tétragramme, Yahvé, m'a acquise. Yahweh, Kanani, Reshit, Darko. Le Seigneur m'a acquise, c'est le verbe utilisé par Ève quand elle acquiert un enfant, un fils, Kaniti ish et Adonai, en Genèse 4, 1. J'ai acquis un homme par le Seigneur. Donc, le Seigneur m'a acquise, prémisse de son œuvre, commencement de son œuvre. Ce qui veut dire d'ailleurs que commencement a aussi la connotation de prémisse, avec un C, hein, prémisse au pluriel, de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Hein. Dès l'éternité je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre, quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Hein. La sagesse est fille de Dieu. Quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Donc, la sagesse fille donc, d'un Dieu qui ne peut être dans ce cas que père, n'est-ce pas ? Donc voilà, la sagesse est déjà le milieu où on discute cette question du rapport entre un Dieu unique et une sagesse qui est Dieu sans être Dieu, n'est-ce pas ? Voilà. sans être, voilà, sans mettre en péril le monothéisme juif, avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde, Ba'atino shamani sham, Ba'atino shamaim shamani. J'ai le mot là. Quand il a fermé les cieux, Ba'atino shamaim, quand il a fermé les cieux, shamani, là, moi. Voilà. Donc, avant l'acte créateur, pendant et après, la sagesse. Bon. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, donc ça veut dire quand il introduit une loi cosmique, hein, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer, et les eaux n'en franchiront pas le bord. La loi cosmique qui fait qu'il y a distinction entre le liquide et le solide. Quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés, alors comme le maître d'œuvre, donc comme petite fille. La sagesse est une petite fille qui joue au ballon le bord de la mer. N'est-ce pas, voilà. Il y a une note ludique, une note de sagesse enfantine là-dedans qu'il ne faut pas laisser échapper. Je faisais cette délice, jour après jour. Délices, ça vous rappelle le jardin d'Éden, le jardin des délices, très important. La sagesse nous permet de rester dans le paradis. En écoutant la sagesse, on écoute la parole de Dieu, sa loi, et l'on ne pêche pas. On est à l'abri du péché, de la désobéissance, de la faute. Je faisais ces délices jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence, m'ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices deux fois parmi les enfants des hommes. Bene Adam, dernière expression de Proverbe 8, 22, 31, dont le premier est le tétragramme. Yahvé et les enfants d'Adam. Qu'est-ce que la sagesse, à la lumière d'un texte comme celui-là, nouvelle dette à Paul Beauchamp? C'est la sagesse, celle qui met ensemble le plus grand, le plus haut, le plus saint et les plus petits, les pécheurs, mais ce n'est pas le péché qui est pris en compte ici, hein. C'est la sagesse. Sagesse qui a une fonction de médiation. C'était Beauchamp qui disait aussi, n'est-ce pas ? La sagesse, Proverbe 8, 22, 31, vous avez un grand colis, une grande caisse avec haut et bas, et entre les deux, fragile. Voilà. Tout ce qui est de l'ordre de la création, de la relation entre le Seigneur et les enfants d'Adam, c'est fragile. Mais la médiation de la sagesse permet de préserver cette fragilité. Donc, voilà. En un commencement, au commencement était le Verbe. Alors, pourquoi l'auteur ne dit-il pas, comme dit le texte de Proverbe 8, 22, 31, au commencement était la sagesse? Ah bon, alors, d'abord, deux choses. Pourquoi est-ce que j'ai préféré le Verbe aussi, finalement, à la parole? C'est que si on adopte le féminin, par la suite, on a des problèmes dans la traduction du prologue, quand on a référence au Christ, n'est-ce pas? Donc, l'avantage du Verbe, c'est d'être du masculin, il n'y a aucun machisme là-dedans, n'est-ce pas ? Mais simplement une facilité linguistique que l'on se donne. Mais en même temps, ce qui est remarquable, en effet, c'est que une des nouveautés, jusqu'à un certain point, du prologue par rapport à un texte de, comme Proverbe 8, 22, 31, il y en aurait d'autres à citer, hein, mais nous le citerons tout à l'heure à propos de « Il dressa la tente en nous ». Siracide 24, 8, qui dit la présence de la sagesse dans la tente de la réunion au cours du pèlerinage d'Israël vers la terre promise, et puis la tente devient le temple de Jérusalem après l'époque du nomadisme dans l'époque de la sédentarisation à Jérusalem. Donc, autre grand texte de sagesse sur le rapport à l'origine, Siracide 24, Ecclésiastique 24. Mais pourquoi l'auteur ne dit-il pas, plus simplement, en honorant cet héritage biblique, au commencement était la sagesse? Ah bon? Parce que, d'une part, déjà dans un texte comme Sagesse 9, la grande prière Sapientiel, d'un des écrits les plus tardifs de l'Ancien Testament, qui vient d'ailleurs après l'Ecclésiastique, dans le canon des Écritures catholiques. Nous avons donc, je fais une erreur là. La sagesse arrive avant l'Ecclésiastique. Et dans le livre de la sagesse, au chapitre 9, grande prière que l'on reprend régulièrement dans l'office des heures de la liturgie chrétienne, n'est-ce pas ? Nous avons ceci. Dieu des Pères et Seigneur de miséricorde, toi qui par ta parole as fait l'univers. Réminiscence de Genèse 1. Dieu dit et cela est. Dieu crée par la parole. Et le texte en grec de Sagesse 9.1 le dit pour la première fois très clairement. Toi qui par ta parole as fait l'univers, toi qui par ta sagesse en un deuxième temps as formé l'homme pour dominer sur les créatures que tu as faites, je passe le verset 3, donne-moi celle qui partage ton trône la sagesse et ne me rejette pas du nombre de tes enfants. Donc déjà dans l'Ancien Testament, à la lumière d'un texte non reconnu comme canonique dans la tradition protestante, ni juive, puisqu'il est écrit en grec, mais pour nous c'est vraiment un texte normatif, dans un texte comme Sagesse 9, la parole, en quelque sorte, arrive en premier lieu pour définir l'œuvre de la création de Dieu par sa parole. Et donc, c'est certainement de là que part le quatrième évangéliste pour dire, au commencement, il n'y avait pas la création. Genèse 1.1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Sagesse 9 dit déjà, pour que Dieu puisse créer ciel et terre, il faut qu'il y ait sa parole. C'est là-dessus qu'appuie le quatrième évangéliste, comme aucun autre auteur du Nouveau Testament. C'est vraiment son objet formel. Avant que Dieu puisse créer par sa parole, il y a sa parole. C'est pas compliqué, hein. Nous ne sommes vraiment pas dans un univers spéculatif, hein. La Bible est symbolique, hein. Nous ne sommes pas dans un discours conceptuel, hautement théologique, certes, mais qui ne procède pas discours dogmatique compliqué. Hein, voilà. Mais il y a beaucoup d'allusions et il faut essayer de se débrouiller avec les implications de ce qui est ainsi dit de façon extrêmement condensée et synthétique. Au commencement, Dieu ne créa pas le ciel et la terre, puisque pour créer le ciel et la terre, il s'est servi de sa parole. Et que sa parole prend le relais de sa sagesse, qu'il assiste avant, pendant et après la création. Voilà. La parole. Alors, vous voyez, je suis très impressionné en lisant la littérature foisonnante. Je ne vous ai pas donné de bibliographie ce soir, pour ne pas vous étouffer et vous inonder de bibliographie. Elle est abondante. Vous aurez votre compte dès la semaine prochaine. Mais c'est étonnant de tout ce qui se produit, et ce qui se produit de très valable, hein, de très intéressant. C'est vraiment, on est en pleine ébullition. Mais disons, on voit bien à l'heure actuelle, que ce soit pour Jean ou pour d'autres textes, pour d'autres dimensions du Nouveau Testament, beaucoup, et déjà dans l'Ancien Testament aussi, on peut en dire autant, n'est-ce pas ? Ce qui fait progresser l'intelligence des textes, ce sont les parallèles extra-bibliques. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui vient de la Syrie, de la Mésopotamie, de Babylone, d'Ougarit, de Ras-Shamra, donc toutes ces découvertes qui ont été faites de bibliothèques écrites en cunéiforme, etc., donc qui montrent que le monde biblique était vraiment enraciné dans ces mentalités du Proche-Orient ancien. Pour les études du Nouveau Testament, ce qui prend un essor jusqu'à présent pas encore atteint, c'est la prise en compte de l'univers des apocryphes. Hein. Les textes qui ont circulé dans cette époque extrêmement féconde du point de vue de la créativité littéraire, deuxième avant, deuxième après le Christ, il y a eu un pullulement d'apocalypse. Par exemple, il y a eu les 12 testaments des patriarches, il y a eu donc des textes qui sont proches de l'univers johannique et de l'univers du Nouveau Testament. Maintenant, l'important est de ne pas s'y perdre, de ne pas s'y noyer. Et il faut être vraiment expert en la matière pour ne pas s'y perdre ni pas s'y noyer. Donc, personnellement, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à ce que l'on a pris d'habitude depuis, ça doit remonter aux années 50, 60, hein, ou plus tard, la lecture canonique de la Bible, c'est-à-dire l'éclairage de la Bible par la Bible. Éclairé, par exemple, maintenant, en ce qui concerne le Logos, l'évangile de Jean. Bon, il y a beaucoup d'intérêt à l'étudier à la lumière de Qumran. Nous aurons l'occasion d'y voir, de voir cela aussi en détail sur des points particuliers du texte. Mais d'abord et avant tout, éclairer la Bible par la Bible. Le Logos par les réminiscences de la parole dans l'Ancien Testament, tel qu'il est reconnu canoniquement comme référence pour la foi dans la, vie chrétienne. Déjà dans le judaïsme jusqu'à un certain point, mais autrement, le canon des Écritures. Et personnellement, j'ai toujours pensé que le canon est vraiment une réalité chrétienne. Si on parle d'un canon juif des Écritures, ce ne peut être que de manière analogique avec le canon des Écritures chrétiens, parce que le canon dans le christianisme est lié véritablement au mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ. C'est-à-dire les écrits qui nous servent de référence dans la foi pour comprendre le mystère pascal de Jésus. Eh bien, si on s'en tient alors surtout aux réminiscences canoniques de la parole, la moisson est déjà extrêmement abondante. Parce que, comme nous venons de le voir, la parole renvoie à la sagesse. Donc, tout cet univers de la réflexion assez tardif en Israël. On fait remonter la théologie de la création en Israël à, après l'exil, dans le corpus prophétique, par exemple, au second Isaïe. Hein, là où, par exemple, enfin, le fameux grand texte « Nouvel emprunt, nouvel héritage » de Paul Beauchamp, en Isaïe 54, 8, il est dit par Jérusalem, n'est-ce pas, il est dit par le Seigneur à Jérusalem, « Ton époux, c'est ton créateur. » Hein ? Rapport entre l'alliance dans l'histoire et la sagesse dans la création. « Ton époux, c'est ton créateur. » Donc, la théologie de la création, hein, qui émerge d'ailleurs aussi dans le fameux discours de la mère des sept fils martyrs en 2 Maccabée 7, n'est-ce pas, va jusqu'au bout de ton témoignage dans la foi et je te retrouverai dans la miséricorde. Hein. Donc, univers à la fois de retour d'exil et univers apocalyptique. Hein. Donc, la parole a donc un rapport étroit avec ce domaine de la sagesse qui s'occupe de l'origine, mais comme on ne peut pas s'occuper de l'origine sans l'articuler à la fin, c'est aussi l'univers de la sagesse à l'origine et de l'apocalyptique à la fin. Hein ? Le Dieu créateur est le même que celui qui juge à la fin des temps. Voilà. La parole évoque ce monde-là. Et c'est un monde. Mais, peut-être même pour nous chrétiens, ce qui évoque d'abord la parole, ce n'est pas ce monde de la sagesse qui nous reste quand même encore, me semble-t-il, assez lointain, assez peu connu, mais la loi. Quand nous lisons les 10 commandements, quand nous lisons le décalogue, que ce soit dans la version d'Exode 20 ou que ce soit dans la version d'Exode de Deutéronome 5, les 10 commandements, ce sont les 10 paroles. Dieu révèle sa volonté en donnant sa loi, et donc la parole renvoie à tout ce monde de la loi, qui d'ailleurs suit dans le Pentateuch le livre de la Genèse, c'est dans l'Exode, en particulier au Sinaï, et l'événement du Sinaï se prolonge de Exode 19 à Nombre 10, en enjambant le livre de l'Exode, le livre du Lévitique et la moitié du livre des Nombres. Donc voilà. Au commencement, il y a la parole, c'est aussi la parole de la loi. Et donc pas du tout dans un sens légaliste. Il faut une loi pour vivre ensemble. La loi, c'est le don de Dieu, c'est d'ailleurs l'expression juive, Matan Torah, c'est ce que Dieu donne à son peuple pour qu'il puisse vivre ensemble. Sans loi, le peuple verse dans l'anarchie, j'ai pas besoin de citer des exemples. Bon. Alors voyez, le canon. Qu'est-ce qu'il y a dans le canon des Écritures? Il y a le Pentateuque, la loi, la Torah qui est toujours texte législatif, texte narratif. Jamais Dieu n'impose sa loi à son peuple avant que le peuple ait vécu avec son Dieu une expérience dans l'histoire capitale. Bon. Après le Pentateuque, dans le canon catholique en tout cas, il y a la sagesse. Nous venons de l'évoquer rapidement. Pentateuque, loi. Sagesse, prophète. Alors là, ça nous est peut-être encore plus accessible. Tous les prophètes modulent leur message en ponctuant leurs oracles en disant « Parole du Seigneur ». Le Seigneur m'a dit « Oracle du Seigneur ». Alors, voyez... tout ce qui nous est ainsi suggéré et qui fait comprendre à quel point, dès son premier stick, du premier verset, le quatrième évangile est difficilement compréhensible sans la fécondité inépuisable dans l'Ancien Testament. Je m'empresse de dire, cependant, pour corriger ce qui pourrait apparaître d'un peu... impressionnant dans ce que je viens de dire, on peut aussi très bien lire le même texte de manière très simple. Au commencement, il y a la parole. Comme je vous disais, qu'est-ce que la parole? Ah ben, l'Évangile nous le dit, et il nous le dit dans des dimensions absolument impressionnantes. Je relis rapidement et nous faisons la pause. Les 5 premiers versets, en disant, tout s'enchaîne, n'est-ce pas? Au commencement, il y a la parole, qui est absolument positive. C'est la parole créatrice, c'est la parole qui donne la vie à travers la loi, c'est la parole qui révèle les décisions du Seigneur à travers les prophètes quand les rois abusent de leur autorité. Au commencement, il y a la parole. La parole était auprès de Dieu, et Dieu, elle était la parole. Le fondement est absolument positif. C'est un héritage de l'Ancien Testament, qui est une véritable révolution religieuse et culturelle dans le Proche-Orient ancien. Il n'y a aucune trace de mal dans le commencement. Et j'ai été content en relisant, parce que j'ai consulté... les classiques, n'est-ce pas? La Tob insiste là-dessus, n'est-ce pas? Aucun dualisme. Alors il prend la précaution de dire aucun dualisme métaphysique ni aucune gnose dans le prologue de Jean. Tout à fait d'accord. Mais si on dit qu'il n'y a aucun dualisme ontologique au niveau de l'être, il n'y a qu'un principe, c'est la parole qui est Dieu, alors on ne peut pas dire... comme on entend encore le répéter de nos jours, qu'il peut y avoir cependant dans le quatrième évangile et dans le prologue déjà, nous allons en voir des attestations tout à l'heure, potentiel au moins, un dualisme moral et religieux. Ça, j'ai jamais compris comment on pouvait le dire. Parce que, du point de vue philosophique et herméneutique, s'il n'y a pas de dualisme au niveau de l'être, il ne peut pas y en avoir au niveau de l'agir moral. Ça, c'est du thomisme élémentaire. Agere sequitur esse. Si il n'y a pas de dualisme au niveau de l'être, il ne peut pas y en avoir au niveau moral, au niveau de l'agir. Voilà. Ah ben. Voilà. Nous mettons du temps à intégrer cette donnée fondamentale, qui est vraiment principielle, n'est-ce pas ? Et l'auteur, justement, appuie là-dessus en disant « Celui-ci était celle-là, la parole, au commencement auprès de Dieu, et rien d'autre. » Dans toutes ces diaprures, dans toutes ces implications, mais implications positives. Reprise, toute chose universelle, à travers la parole, à travers le verbe « devint » et en dehors de lui, ne devint pas même une chose qui est devenue. Alors ça vous semble un peu bizarre, mais donc je prends la traduction de la Tob qui dit cela de façon plus élégante. Tout fut par lui, je n'aime pas qu'on dise fut parce que justement c'est plus le même verbe être qui est repris, mais enfin tout fut par lui et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Ah oui, mais c'est que s'il insiste, c'est parce que il est important d'y insister. On est toujours tenté de remettre du mal quelque part à l'origine. Dès la Genèse, dès les premiers versets du prologue de Jean, c'est pas possible. Au niveau de la foi, au niveau de la vie spirituelle, au niveau de la prière, au niveau de la relation aux autres, au niveau anthropologique fondamental. C'est d'ailleurs, pour le dire au passage, n'est-ce pas rapidement, c'est l'interprétation que donnait tardivement, je reconnais, 4e siècle, Saint Jérôme, dans la traduction latine. L'autre traduction, c'est celle que nous trouvons par exemple dans la Bible de Jérusalem et qui fait passer la troisième mention du verbe devenir au verset 4, pas à la fin du verset 3. Je vous lis cela, si je n'ai pas perdu ma petite feuille de Saint Jean, ben je l'ai perdue mais je la retrouve aussitôt. Sans tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie. Occasion d'ailleurs de dire que le texte original en grec ne comporte évidemment ni chapitre, ni verset, ni minuscule, ni majuscule. Toute introduction de minuscule, de ponctuation de verset et de chapitre remonte à plus tard. Hein ? La distinction entre verset et chapitre remonte au Moyen Âge. Hein ? Et donc voilà. En lui était la vie. La vie. Il y a deux termes pour dire la vie en grec. Bios, zoé. Ici, le terme utilisé, c'est zoé. C'est pas la vie biologique, d'abord. Aussi, sans doute. Mais c'est la vie en tant qu'elle exprime l'essence de la parole qui est Dieu lui-même. C'est d'abord la vie de Dieu. En lui, la vie était. Et on revient au verbe être. Et la vie, qu'est-ce qu'est la vie ? Alors voilà, symboliquement, on ne va pas vous faire un discours sur ce qu'est la vie. La vie était la lumière des hommes. La vie est lumière. Et qu'est-ce que la lumière ? C'est le contraire des ténèbres. Ah oui ! Et donc les ténèbres, la ténèbre, dit le texte, arrive très tôt. Mais en second lieu, la ténèbre arrive toujours trop tard. Elle est supplantée de toujours à toujours par la lumière et la vie qui est lumière, la lumière qui est vie, et vie, on pourrait dire, éternelle, tout de suite. Si c'est la vie de Dieu, c'est celle qu'il crée aussi à son image comme sa ressemblance, selon Genèse 1, 16, 17, 26, 27, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une vie qui peut être mortelle, hein, mais qui est appelée à la vie éternelle en Dieu. Oui. Et la ténèbre ne la saisit pas. Je termine là-dessus. J'ai évoqué l'autre traduction. Et ça continue à se battre dans le terrain exégétique à l'heure actuelle, n'est-ce pas ? Que veut dire ce catélabène ? Eh bien, je pense vraiment qu'il y a une insistance tout à fait dans la ligne de ce qui vient d'être dit sur le fait que jamais la ténèbre ne peut faire écran à la lumière. Ça, ça fait partie de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament déjà. La ténèbre ne peut pas s'emparer de la lumière. Elle ne peut pas lui faire écran. Elle ne peut pas lui résister. On ne vous définit pas la ténèbre. On vous dit c'est le contraire de la lumière. Comme le mal est le contraire du bien. C'est une privation de bien. Donc, voilà, pour rester dans un niveau aussi général que possible, vraisemblablement, parce que ces cinq versets doivent pouvoir servir d'échange dans le dialogue avec tout être sous le soleil, qu'il soit grec ou juif, qu'il soit païen ou membre du peuple élu. Quand on dit « la ténèbre ne l'a pas comprise », on anticipe déjà sur ce qui va être dit un peu plus loin, mais à mon humble avis, ce n'est pas cela que veut dire en premier lieu la conclusion du verset 5. La conclusion du verset 5, « la ténèbre ne la saisit pas », souligne que si la ténèbre est seconde, elle peut toujours encore être traversée, ressaisie, reprise par la lumière. Sinon, il n'y a plus de conversion possible. Et sinon, la ténèbre s'installe au niveau des principes et au niveau de l'origine. Ce qu'il faut éviter, compte tenu de ce qui précède. J'ai déjà débordé. Nous nous donnons 10 minutes maximum. Donc, on se retrouve à 18. Parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire, compte tenu de ce qui suit dans le prologue. Voilà, donc, chères auditrices, chers auditeurs, il semble qu'il y en ait dans cette auguste assemblée qui n'ait pas de feuilles. Ça veut dire que vous êtes plus de 77, parce que nous avons tiré à 70 le nombre des inscrits, plus 10%, 7, c'est les conventions. Qui est-ce qui n'a pas reçu de feuilles et à qui je devrais faire une photocopie pour la prochaine fois ? 1, 2, 3... 4, 5, le compte est bon. Je note ça soigneusement. En attendant, si vous voulez profiter d'un voisin ou d'une voisine, voilà. Donc, il n'est pas étonnant que nous ayons dû passer un certain temps à travailler les cinq premiers versets, puisque comme je vous l'annonçais et que cela s'est un peu vérifié quand même, un certain nombre d'auteurs pensent que les cinq premiers versets du prologue sont une sorte de condensé, non seulement du prologue, mais de l'évangile tout entier, et j'oserais dire de la révélation. C'est ce qui fait son intérêt. J'avais écrit à l'époque ce que je continue à souscrire dans le livre, dont vous savez sans doute l'existence, selon Jean. Jean 1, 1, 5 articule la logique pour nous du Dieu créateur et sauveur en Israël à l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc c'est quand même une synthèse de toute la révélation. Dès le premier acte de lecture à deux niveaux, est offert un condensé de l'Ancien Testament qui culmine en Jésus-Christ. Non nommé, celui-ci est partout présent. Il ne sera nommé que dans l'avant-dernier verset du prologue, mais je suis de ceux qui pensent qu'il est présent dès que l'auteur parle du Logos. Je n'entre pas dans la problématique encore foisonnante à l'heure actuelle de la distinction entre une hymne primitive qui aurait été consacrée au Logos au niveau d'une première rédaction du prologue et qui se serait alors augmentée, notamment des passages sur Jean que nous allons voir et d'autres éléments, mais il est certain que dans l'état définitif de la rédaction de Jean 1:1-5, nous avons en quelque sorte non seulement la prise en compte, parce que c'est lié, c'est des choses qu'il faut progressivement intégrer, l'intégration du dessein créateur de Dieu, mais aussi du dessein sauveur. Si j'insiste tellement sur le fait que la ténèbre ne la saisit pas, doit être compris dans le sens d'une impossibilité pour la ténèbre de l'emporter sur la lumière, c'est parce que c'est aussi la clé de la fin des temps. Nous espérons pour tous que la lumière l'emportera sur la ténèbre. Le jugement, le verdict final est posé comme accompli par adossement à l'origine. Et ça, c'est apocalyptique. Certaines d'entre vous ont assisté au cours sur l'Apocalypse l'année dernière, n'est-ce pas? Mais donc, l'alpha est nécessairement dans une logique spirituelle et symbolique articulée à l'oméga, le premier au dernier, le principe à la fin. Ce sont des choses qui vont de pair dans l'univers biblique, mais je dirais plus fondamentalement, dans l'univers anthropologique. Nous sommes ainsi bâtis. Et notre parole procède ainsi. On m'a demandé si je reviendrais sur l'étymologie de logos, parole. Non, je n'ai pas le temps, mais je me permets simplement d'insister sur l'importance aussi de l'entente au premier niveau de « au commencement, il y a la parole », parce que là, M. Michel Baron, psychanalyste ici présent dans cette Sainte Assemblée, pourrait me confirmer, la parole dans le monde culturel contemporain, très marqué par la linguistique et par la psychanalyse, c'est le premier lieu de la symbolisation. La parole, le langage est le symbole par excellence qui nous permette de communiquer. Et donc, dire que cette parole est véhicule d'une vie et d'une lumière qui l'emporteront sur toute mort physique et spirituelle et sur toute ténèbre, je dirais, c'est la bonne nouvelle par excellence. C'est-à-dire, voilà. Et alors, maintenant, nous allons essayer, je ne sais pas si j'y arriverai, de boucler la boucle du prologue en une demi-heure. Mais ceci étant mis en place, parce que je crois que c'est très cohérent dans un univers comme celui-là, n'est pas où tout se tient. Donc, après les cinq premiers versets, comme dirait M. de la Palice, il y a les versets 6, 7 et 8, qui nous font rencontrer le seul personnage humain dont il soit question jusqu'à présent et qui est nommé par son nom. Donc, « devint un homme envoyé de Dieu », ça ne se dit pas en français. Ça ne se dit pas en grec classique, c'est cependant l'occasion pour l'auteur, après une reprise du verbe « être » après les quatre premières reprise de ce verbe « était » il y a au verset 1 et 2, de reprendre le verbe « devenir » pour introduire ce personnage, un homme envoyé de Dieu, apestalménos. Il n'y aura qu'un seul emploi du terme « apôtre » dans le quatrième évangile. Ce sera au chapitre 13, bien loin après le prologue, n'est-ce pas ? Mais le verbe « apostello », qui donne « apostolos », « apôtre », est employé pour Jean. « Devint un homme apestalménos, envoyé de chez Dieu. » Donc, le retour au devenir historique se fait par le surgissement d'un homme, un nom pour lui, Jean. On ne dit pas Jean le Baptiste. Et je suis sensible à certains qui disent, n'est-ce pas, s'il ne précise pas, c'est qu'il faut laisser de nouveau le champ ouvert. Hein. Selon Jean, kata Ioannen, et le premier nom qui arrive dans le prologue, un homme, son nom, Jean. Voilà. Roberto Vignolo, un amico italiano, dit dans son beau livre « Personnage du quatrième évangile », il ne serait pas étonnant, dans ce monde si subtil du quatrième évangile, n'est-ce pas, qu'il y ait aussi une évocation, mais très elliptique, de Jean, l'auteur du quatrième évangile. Qui est-il ? Ça, on aura le temps de s'en expliquer. Jusqu'où on peut aller ? Ça, c'est encore une autre question. Mais donc voilà, Jean, Johannes, Yohanan en hébreu, Dieu fait grâce, Yohanan, c'est pas dit. Il y a des noms grecs qui seront expliqués à la lumière de leurs racines hébraïques et araméennes. Ici, non. Jean, ça doit nous suffire. Et ce qui doit nous suffire, c'est sa fonction insistante. Celui-ci vint, 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 un verbe très cher au corpus johannique. L'Apocalypse se termine là-dessus, n'est-ce pas ? Viens, Seigneur Jésus. Il vint pour un témoignage, martyria. Donc un témoignage martyr, jusqu'au témoignage de son sang, afin qu'il témoigne au sujet de la lumière dont il a été question, la vie, la lumière. Alors, c'est afin que tous croient à travers lui. Ah ben c'est exorbitant ça. D'où justement la possibilité de voir aussi à travers le témoignage de Jean, entre guillemets le Baptiste, le témoignage de Jean, auteur du quatrième évangile, qui est tout à l'enseigne du croire. Hein ? Voilà. Et alors, certains disent aussi, n'est-ce pas, parce qu'enfin, que le croire soit ainsi dépendant du témoignage de Jean, ça va très loin. Alors, certains hésitent, est-ce que ce ne serait pas afin que tous croient, non pas à travers Jean, mais à travers la lumière, ce qui est possible, parce que c'est la même forme en grec, n'est-ce pas ? Aoutou, dit aoutou, qui peut être un masculin ou un neutre, phos étant neutre, lumière. Pour ma part, cependant, alors là aussi, nouveau principe de lecture, n'est-ce pas, d'exégèse, la lectio difficilior, la leçon la plus difficile, celle qui fait le plus de problèmes, enfin celle qui pose le plus de questions, c'est de prendre au sérieux l'affirmation d'après laquelle le croire de tous, dans l'histoire, dans le monde, dépend de Jean. Alors, ça nous fait réfléchir. Jean, nous le verrons dans le premier et dans le deuxième passage sur lui, et puis au début du récit qui suit, c'est vraiment, ben là, l'évangile de Matthieu le dira aussi, n'est-ce pas, le prophète par excellence, parmi les enfants des femmes, pas des hommes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean, hein, parce qu'il est la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, pour faire bref. Hein. C'est le précurseur. Donc, c'est le témoin par excellence qui participe déjà anticipativement à la passion, mort et résurrection, enfin, au moins passion mort du Christ, avec l'espérance de la résurrection. Cependant, qu'il n'y ait aucune équivoque, mesdames, messieurs, il n'était pas celui-là, la lumière. Mais afin qu'il témoigne, deuxième fois que le verbe témoigner est employé en deux versets, au sujet de la lumière, deuxième fois que le même complément est repris aussi. Le témoin de la lumière. Qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est la prise en compte d'un témoin pour croire. Réfléchissons-y, hein, de ce nouveau, nous sommes renvoyés à notre expérience, au vécu. Notre croire dépend de la qualité d'un témoin que nous avons rencontré. Et quand bien même ça ne passerait pas par un témoin en chair et en os, nous croyons sur le témoignage des apôtres. Ça fait partie de la foi de l'Église. Nous avons besoin de témoins. Notre époque souligne ça très fort. Hein ? On se méfie un peu des grands discours, mais les témoins. De la lumière. Des témoins des ténèbres. Il faut des témoins de la lumière, qui témoignent de ce que la lumière est absolument première et donc définitive. Voyez, dans cette optique, je crois vraiment personnellement, je continue à être confirmé en ce sens, n'est-ce pas ? Le premier passage sur Jean conclut une première unité littéraire qui va de 1 à 8. 1, 5 conclut par 6 à 8. Et alors, avec la deuxième étape, nous sommes de nouveau introduits dans un rythme un peu en spirale. Hein. La deuxième unité littéraire va reprendre les 8 premiers versets en creusant. Hein. Le sujet du verbe « était » qui revient d'ailleurs au verset 9 n'est pas évident, mais je suis de ceux qui pensent que le sujet sous-entendu, c'est le verbe, mais il n'est pas exprimé, il faut le reconnaître. Le verbe était la lumière, la véritable, aletinon, qui, vous voyez, puisque nous avons le texte là, renvoie déjà implicitement à celui qui est accompli de grâce et de vérité, en conclusion du verset 14. Donc ça délimite pas mal les versets de l'événement central, de la venue de la parole dans le monde jusqu'à y compris l'incarnation. Le verbe, pas Jean, le verbe, Jean était le témoin de la lumière, le verbe était la lumière, la véritable. Et la véritable, puisque je viens de le dire, n'est-ce pas, qui est du champ sémantique là, de la vérité, nous fait de nouveau rencontrer cette ambivalence des mondes hellénistiques et sémitiques. La vérité, ce qui est véritable, ce qui est vrai, hein, parce qu'il y a vrai et véritable. Ici, insistance à l'éthinos qui est peut-être encore plus insistant que à l'éthès, hein. Dans le monde grec, la vérité, c'est, selon une définition que l'on fait souvent remonter à Aristote, qui remonterait vraisemblablement plus haut encore, au philosophe arabe Avicenne, j'avais un peu travaillé ces questions-là à propos de la vérité dans les Épîtres, n'est-ce pas ? Mais la vérité, au sens grec, c'est l'adéquation, le rapport juste entre l'intelligence et la chose. Un énoncé vrai, c'est de dire, en introduisant le rapport entre l'objet et mon intelligence, de dire, ceci est un livre, et ceci est la Bible en hébreu. Voilà. Adéquation de l'intelligence et de la chose. Dans le monde sémitique, c'est moins abstrait, c'est pas conceptuel. Ce ce n'est pas opposé à la vérité au sens aristotélicien ou grec du terme. Mais quand il est dit « il était la lumière, la véritable » et du verbe « qu'il est accompli de grâce et de vérité », Alethes, Alethinos, Aletheia, dit la traduction grecque de Emet en hébreu. Emet, le substantif qui vient de la racine aman, d'où vient notre amen. Qu'est-ce que je fais quand je dis amen? Je dis j'adhère dans la foi à ce qui est proclamé. Hein? Le symbole de la vérité en ce sens sémitique dans la Bible, c'est le rocher. Ce qui est vrai, c'est pas d'abord ce qui est intellectuellement juste, c'est ce sur quoi je peux m'appuyer, parce que ça tient. Hein? Le flou, le sable mouvant, c'est ce qui risque de m'engloutir. Le rocher, c'est ce qui tient et ce sur quoi je peux m'appuyer. Voilà. La lumière, la véritable. Celle à laquelle je peux accorder foi, créance. Le Verbe était la lumière, la véritable, qui illumine tout homme en venant dans le monde. Le mot « homme » avait été employé pour le premier personnage nommé Jean. Mais ici, c'est tout homme. Donc, et au sens donc de « anthropos hein, », homme-femme, hein, l'humanité, dans son universalité. Et c'est la première fois qu'apparaît le terme « cosmos », le monde, dans une acception d'abord positive, car il y a deux sens, n'est-ce pas? Et nous allons le voir tout de suite, du monde dans l'évangile de Jean, et on ne retient souvent que le second, négatif, au sens de mondain, hein, d'incrédule, ce qui s'oppose à la foi, non, d'abord, qui illumine tout homme en venant dans le monde, un monde créé bon par la parole elle-même, qui est vie et lumière. Dans le monde, il était, et le monde à travers lui devint. Donc, trois fois que le monde est employé dans un sens d'abord et avant tout positif, et sans que ce soit expliqué, parce que c'est inexplicable, ce monde bon, tout d'un coup, ne le connut pas. Ne le connut pas. De nouveau, il y a différentes manières de connaître. Dans le monde grec, la connaissance est d'abord une connaissance intellectuelle. C'est le terme qui a donné gnose. Gnosis. Dans le monde sémitique, la connaissance, c'est la connaissance non pas rationnelle, intellectuelle, conceptuelle, c'est la connaissance relationnelle. L'homme connut la femme et elle enfanta Caïn. Connaître, c'est le verbe yada, hein, de la connaissance conjugale. Alors, c'est presque encore plus stupéfiant, n'est-ce pas? Le monde ne le connut pas. Donc, comment, tout d'un coup, ce monde bon devient une puissance d'opposition au verbe, à la lumière, à la vie? C'est un fait. C'est un fait non expliqué, mais toute la suite nous en montrera quand même certaines implications. On va essayer de comprendre cet incompréhensible, ce mystère de la non-connaissance, du refus de la lumière par le monde. Et on peut espérer que ce refus ne sera jamais définitif, précisément parce qu'il ne vient qu'en un second temps de nouveau, comme la ténèbre après la lumière dans les premiers versets. Et alors, voilà, on a de nouveau cette même technique stylistique, mais aussi spirituelle, théologique, anthropologique. On creuse. Après avoir donné une telle affirmation assez massive au verset 11, les versets 12-13, dont je pense personnellement et de plus en plus qu'ils sont vraiment centraux, viennent expliciter le verset 11. Le verset 14, dont on dit qu'il est le diamant, ce que je ne conteste pas, du prologue avec l'affirmation « le verbe chair devint », est très important, mais il est précédé par les versets 12 et 13 qui sont peut-être encore plus importants, ce que l'on nommait peut-être trop souvent. Vers ces choses propres, il vint, et ces gens propres ne l'accueillirent pas. On traduit souvent, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, et on voit toujours, enfin en tout cas souvent, en premier, dans les siens, les juifs. Attention, attention au pot de banane sur l'anti-judaïsme ou l'antisémitisme que l'on prête toujours de plus en plus au quatrième évangile. C'est très impressionnant. Dans la production actuelle, je suis un des rares à soutenir que le quatrième évangile n'est pas le ferment de l'antisémitisme chrétien. Je me bats là-dessus depuis les émissions sur la chaîne 5 Arte en 99, où les exégètes de toutes confessions confondues, protestants, orthodoxes, catholiques et juifs, disaient que dans le verset de « ils le leur livrèrent »,« ils les juifs, le Jésus livrèrent à Pilate », ils le lui livrèrent pour être crucifié. Nous avons là, comme le disait un des journalistes qui était l'organisateur de ces émissions, le petit verset « Il leur aux Juifs livra pour être crucifié » la cause de millions de Juifs dans l'histoire. Eh bien voilà ce que, personnellement, je conteste, mais je n'ai pas rencontré beaucoup d'appui chez les collègues, ni même dans la compagnie de Jésus. Donc, je prends là mes responsabilités, n'est-ce pas ? Mais donc, pourquoi est-ce que je nuance ici ? Les siens. Non, non. Vers ces choses propres, il vint. De nouveau, ce verbe « venir ». C'est un neutre. « Eista idia ». Compte tenu de ce qui précède, il ne s'agit pas d'abord des Juifs. Il s'agit de tout ce qui est le bien propre de la parole qui est vie et lumière. Et quand il est dit « il vint dans ces choses propres », on veut dire « il vint dans ce monde peuplé de tous ses habitants juifs et non-juifs, juifs et païens qui le peuplent ». Et ces gens propres, « hoi idioi », ce n'est plus un neutre, c'est un masculin. Ces gens propres ne l'accueillirent pas, ce n'est pas les Juifs, c'est les membres de ces biens propres. Ce qui est assez stupéfiant comme affirmation, parce que c'est massif. Et que cela tranche avec toutes sortes d'affirmations précédentes qui ont l'air de soutenir précisément le contraire. Dans leur insistance positive sur beaucoup de dimensions de l'existence humaine et historique. Or ici, cela semble apparemment sans appel, ce ne l'est pas, parce que ça va être suivi immédiatement de nuances, mais vers ces choses propres il vint, et ces gens propres ne l'accueillirent pas, il ne s'agit pas non plus il peut s'agir des Juifs qui ne l'ont pas accueilli. Ou parer la bonne, hein, un verbe de la même racine que la ténèbre ne la saisit pas, mais ici dans un sens plus négatif. Voilà. Mystère du refus de la parole. Quand elle vient, dans ce qui lui appartient. Ah ben, alors voyez, je dis attention, il y a un seul autre emploi dans tout le quatrième évangile de cette expression « ces gens propres ». C'est au début du chapitre 13, qui montre très bien d'ailleurs à quel point le prologue et le chapitre 13, parce qu'ils sont si riches, sont les textes les plus étudiés du quatrième évangile. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, évidemment, ma mémoire me trahit. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers son Père, ayant aimé tous idios, les siens, merci de rallumer les portables après la séance, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Donc, ces gens propres ne l'accueillirent pas, y compris les disciples. Alors attention, les disciples dont il est question explicitement au chapitre 13 comme environnement de Jésus à la dernière scène, ne renvoient pas simplement qu'aux disciples de la scène. Ils renvoient les siens, par-delà les disciples, renvoient à tous ceux qui appartiennent au Verbe et à Jésus. Et c'est vrai. Et c'est une des choses surprenantes que prend à bras le corps, en particulier l'évangile de Jean et l'évangile de Marc, l'incrédulité des disciples. Alors, pour faire passer le message, parce que c'est un peu raide, enfin, à la Passion, ils seront tous partis, hein. Et donc, voilà, il y aura quand même le disciple bien-aimé à la croix. Hein. Mais, hormis Jean, hormis la mère, et hormis le disciple bien-aimé, ils ont tous étalé. C'est impressionnant. Et donc, c'était intéressant, l'autre jour, dans le débat avec Jean-Noël Aletti sur la christologie du Nouveau Testament, les disciples ne sont vraiment pas présentés comme les modèles du croire, hein. Et puis, à certains égards, ils sont même présentés comme les antitypes. Dans l'évangile de Marc, c'est insistant, jusque dans les récits après la résurrection, non seulement ils ne croient pas dans le ressuscité, mais ils ne croient pas dans les témoins qui disent que Jésus est ressuscité, homme et femme. Bon, alors, il faut essayer quand même. Bon, nous sommes un peu... Hein, enfin, voilà. Que se passe-t-il, n'est-ce pas? Alors, attention. Alors, voyez, de nouveau, je n'ai pas traduit ce qu'on traduit souvent, tous ceux qui le reçurent. Hein, c'est autant qui... Hosoi. Hein, autant qui le reçurent. Avec le même verbe. Hein, c'est-à-dire le même radical verbal. Ne l'accueillir pas ou parer la bonne. Hosoi. Auton. Parer la bonne. Voilà. La bonne, le verbe lambanein, qui veut dire d'abord prendre, saisir, et que je traduis ici par recevoir. Hein. Autant, on pourrait dire, tous ceux qui le reçurent, mais enfin, c'est pas d'abord une insistance sur la totalité universelle, mais sur ceux qui, ayant d'abord n'ont pas d'abord accueilli, l'ont ensuite reçu. Grâce précisément à la lumière de l'ensemble de l'Évangile, à la lumière de Pâques, à la lumière du ressuscité. Autant qu'ils le reçurent, et c'est non plus, n'est-ce pas, sans aucune limite, sans aucune exclusive, ah, quel est l'enjeu ? Il leur donna pouvoir, enfants de Dieu, de devenir, à ceux qui croient en son nom, eux qui n'ont de sang, ni de volonté de chair, ni de volonté d'homme, mais de Dieu, furent engendrés. Donc, il y a une sorte de double paradoxe dans le verset 12. Il leur donna pouvoir, le don d'un pouvoir. En général, un pouvoir, ça se prend. Ici, c'est l'objet d'un don gracieux. Il leur donna pouvoir. Oh, terme très important. Exousia, c'est le terme utilisé pour le pouvoir du Fils de l'homme dans Daniel 7 et dans les synoptiques, parce que Jésus s'applique le titre de Fils de l'homme. Et c'est un pouvoir, à la lumière de Daniel 7 que je viens de citer, d'une extension considérable, n'est-ce pas ? Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées de ciel comme un fils d'homme. De nouveau, la distinction entre un fils d'homme et l'ancien. Hein ? Il s'avança jusqu'à l'ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré exousia, empire, traduit la Bible de Jérusalem, pouvoir, honneur et royaume, et tout peuple, nation et langue le servirent. Son pouvoir est un pouvoir éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Le pouvoir. Le pouvoir du Fils de l'homme, hein, qui évoque d'ailleurs aussi une figure à la fois divine, mais humaine. Fils d'homme, ça veut dire l'humain, n'est-ce pas ? Ben Adam, Barnacha en araméen, mystérieux personnage, humano-divin, divino-humain, qui a aussi une vocation de souffrance, mais au prix de laquelle il reçoit le pouvoir. Donc on anticipe ici aussi tout le mystère, ça, le terme qui arrivera dans le dialogue avec Jésus et Pilate, n'est-ce pas ? Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'était donné d'en haut. Hein ? Voilà. Mais alors, nouveau paradoxe, je dis le verset 12 réunit deux paradoxes, le don d'un pouvoir et d'un pouvoir de devenir enfant. Donc, le terme pouvoir suscite toujours l'imaginaire, c'est pas la volonté de puissance. Ici, c'est le contraire. Hein ? Le pouvoir de devenir enfant, un pouvoir d'abdiquer tout pouvoir, très, très remarquable. Au fond, il y a une sorte de, stylistiquement parlant, on pourrait dire, un double oxymore, hein, deux choses, deux fois deux choses mises ensemble qui jurent, qui ne vont pas spontanément ensemble, le don d'un pouvoir et le pouvoir de devenir enfant. Enfant de Dieu. Alors c'est là-dessus qu'il faut s'expliquer. Comment ? C'est ce qui donne l'occasion de définir ceux qui croient selon Jean, et ce n'est pas rien, à ceux qui croient en son nom. Et alors, n'est-ce pas, ici, c'est une des crux interpretum, hein, une des croix des interprètes du prologue, il y a deux versions. Une version au pluriel, qui maintenant quand même de plus en plus fait l'unanimité, mais c'est la lectio difficilior, c'est la leçon la plus difficile à expliquer, au pluriel, qui fait donc des croyants, ceux qui ne sont engendrés ni des sangs. Pourquoi le pluriel ? Parce que ce sont les sangs de la maman, les sangs féminins. Donc, barrage de l'engendrement de Dieu par naissance humaine du côté maternel, ni de volonté de chair du papa et de la maman, sarx, mais la sarx n'est pas dévalorisée pour autant, puisque le verbe sarx, chair, devint, au verset 14, mais enfin, donc, engendré de Dieu par un engendrement qui ne procède pas ni de la mère, ni de du père et de la mère, ni du père, c'est-à-dire ni de volonté d'homme. Et ça, ce n'est plus anthropos, C'est aner, andros, mais de Dieu. Alors pourquoi est-ce que c'est la leçon la plus difficile? Même le père Moin, grand théologien de cette maison, dit ben, c'est quand même difficile, parce qu'il ne s'agit pas de régénération, il ne s'agit pas de palingénésie, comme on dit dans un langage technique, n'est-ce pas, de la renaissance du croyant, comme on en parle habituellement. Il s'agit de l'engendrement de Dieu, dont il est question, d'abord et avant tout, dans la foi chrétienne, pour l'engendrement du Fils en Marie, grâce à l'Esprit-Saint. Ah oui. Donc, c'est une donnée, cependant, malgré tout le respect que j'ai droit à mes grands aînés théologiens, personnellement, je suis persuadé qu'il s'agit ici de la version johannique d'un principe qui est adopté dans toute la tradition. Le croyant est par grâce ce que le Fils est par nature. Nous sommes engendrés de Dieu comme le Fils, mais grâce à lui. Eh bien, il est 19h sur ma montre, je m'arrête là. Suspense. La suite, la prochaine fois. Merci de votre attention, bonne soirée, bon retour.